Nous dans le livre des Actes, s'il vous plaît. Mon épouse va nous faire la lecture de Actes 8, versets 26 à 40. On va prendre le temps de tourner ensemble. Si vous avez besoin d'une Bible, si vous n'avez pas une Bible et que vous aimeriez en avoir une pour suivre, juste levez la main, puis les placeurs vont se faire un plaisir de vous en apporter une. Si vous voyez des mains levées, même tourner dans Actes 8. Alors, nous allons écouter la parole de Dieu, Actes 8, versets 26 à 40.
Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et, comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azoth, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait.
C'était la parole de Dieu. On va se courber ensemble dans un mot de prière. Merci, Esther. Eh bien, Père éternel, merci pour ce beau passage. Seigneur, ce passage me fait rêver. Me fait rêver de tous ces rendez-vous divins orchestrés par toi. Où, Seigneur, nous annonçons l'Évangile et une âme vient de connaissance de Jésus-Christ. Puis passe par les eaux du baptême et consacre sa vie à te glorifier, à t'adorer, Seigneur. Éternel, je veux t'adorer ce matin parce que tu es Dieu. Tu es Dieu et c'est toi qui as créé toutes choses. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes sur l'univers, sur nos vies, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu es souverain. Tu es souverain sur ce qui se produit dans nos vies. Tu es souverain sur toutes les bonnes œuvres que nous pouvons faire pour toi, Seigneur, pour ta gloire. Je veux t'adorer car tu es Dieu. Et vivre en sachant, Seigneur, que tu es là, que tu règnes, que tu veilles sur ma vie, change toute ma perspective de la vie, Seigneur. Je veux t'adorer parce que tu t'es révélé. Non seulement tu es Dieu, tu es présent, mais tu t'es révélé de manière parfaite à travers la personne de ton Fils, Jésus-Christ. Et quelle grâce, Seigneur, et quel amour, et quelle justice, et quelle droiture et quelle sainteté nous avons connue dans ton Fils. par ses paroles, mais surtout, Seigneur, par cet acte incroyable d'amour qu'il a accompli à la croix. Ô Seigneur Jésus, merci de t'être révélé à moi. Merci de t'être révélé à nous, Seigneur, afin que nous puissions te connaître personnellement, entrer en communion avec toi, placer notre foi en toi, Seigneur, dans ce sacrifice merveilleux pour le pardon de mes péchés, Seigneur, et que tu aies fait de moi un enfant de Dieu. Quelle grâce, Seigneur! Oui, Seigneur, aujourd'hui, je désire consacrer ma vie à ton service, comme on vient de le chanter. Consacrer ma vie à te glorifier, à te louer, à te célébrer, à t'honorer dans chacun de mes gestes, dans chacune de mes journées, Seigneur, et à annoncer ce que tu as fait pour les hommes, en faveur des hommes pour leur salut. Père, je te prie de me remplir de ton esprit ce matin. Tu sais combien je suis faible et combien nous sommes faibles, Seigneur, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes humains. Remplis-moi et remplis-nous de ton esprit, Seigneur, ce matin, afin que ta parole, qui est la vérité, soit vie dans nos cœurs, Seigneur, par ton esprit, et qu'elle nous transforme davantage à l'image de ton Fils. Père, je te prie, s'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui ne te connaît pas personnellement comme son Père céleste, qui n'a pas saisi la croix et cette grâce merveilleuse, ne s'est pas repenti de ses péchés, révèle-toi, Seigneur, à son cœur. Je t'en prie, Père, pour son bonheur et pour ta gloire, ô Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. J'ai une petite question quiz pour vous ce matin. Peut-être qu'il y en a qui vont aller dans des fêtes de la Saint-Jean cet après-midi avec la famille ou des choses comme ça. Vous allez aller en vacances. Vous allez avoir des opportunités de parler du Seigneur. Lorsqu'on évangélise, ça c'est notre jargon, n'est-ce pas? Mais il est là déjà dans le passage ici. C'est vraiment un terme biblique. Lorsqu'on annonce l'Évangile, qui dirige dans l'intervention? Quand vous pensez à aller faire de l'évangélisation, quand Aujourd'hui l'Espoir organise une campagne de plusieurs semaines, stratégise, prépare toutes sortes de choses, tout ça, qui dirige, qui guide cette intervention-là d'évangélisation selon vous? Esprit de Dieu, oui, mais pourtant les hommes ont travaillé fort, non? Quand même, un petit peu de respect, non? Dans le passage de ce matin, on a Philippe qui, écoutez, c'est incroyable, c'est un rendez-vous divin, là, comme on les appelle des fois, je veux dire, c'est comme ça fait ta journée, non? Tu t'en vas quelque part dans un lieu désert, puis paf, le gars il est là, en train de lire dans Isaïe 53. Écoute, il s'est préparé pour un cours biblique, c'est pas compliqué. Philippe s'en va là. Et puis, il annonce l'Évangile à cet homme-là et il le guide dans la parole parce qu'il n'a pas la connaissance pour saisir de qui le prophète parle si loin comme ça, tant de siècles de cette époque-là, de quoi ça parle, quand est-ce que ça s'est accompli, tout ça. Et Philippe va le guider à travers ça. Mais je vous repose la même question. Qui est le guide? Qui dirige dans ce passage-là? Moi, je vous dirais que c'est à la fois l'Esprit de Dieu et à la fois Philippe. Clairement, dans le passage, Luc est en train de nous démontrer que l'Esprit est très actif et il est en train de conduire. C'est vraiment clair dans ce texte-là, par plusieurs interventions de l'Esprit ou par un ange du Seigneur. Mais en même temps, il nous est clairement dit aussi que Philippe va servir de guide. Vous rappelez le passage dans les Évangiles où Jésus parle des aveugles qui conduisent des aveugles? C'est le même terme qui est là pour conduire, pour guider. Et Philippe va définitivement servir de guide. Alors, d'après moi, il y a deux guides dans ce passage. Il y a l'Esprit de Dieu et il y a Philippe, le serviteur de Dieu. Mais s'il y a deux guides, selon moi, il y a un seul directeur de mission. Un seul boss qui est en train de diriger ça, et c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de conduire. Ce matin, on va voir ensemble que l'Esprit de Dieu est le directeur général de la mission. Il envoie ses serviteurs partout et pour tous. Et pour notre part, notre rôle à nous, c'est de le laisser nous conduire et simplement d'ouvrir la bouche, d'être prêt à ouvrir la bouche. Je pourrais résumer le message de ce matin en deux points. Vous avez ça dans l'inséré, dans votre dépliant de ce matin. L'Esprit de Dieu conduit la mission. Et deuxièmement, à nous de le laisser nous conduire et simplement annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Voyez-vous, dans le passage de ce matin, il y a un des thèmes forts du livre des Actes. Vous savez, certains vont appeler le livre des Actes, non pas le livre des Actes des apôtres. Ils vont dire, on aurait pu l'appeler le livre des Actes du Saint-Esprit. Lorsqu'on a commencé la série, j'ai plutôt voulu défendre l'idée que c'est le livre des Actes de Jésus-Christ à travers son Esprit. Et donc, c'est la présence de Christ qui est encore manifeste par son Esprit Saint. Maintenant, c'est un des thèmes forts du livre des Actes, cette idée que l'Esprit de Dieu est celui qui dirige la mission. Et on l'a déjà vu de manière explicite et de manière implicite. Dans le passage d'ici, c'est très explicite, où on voit vraiment que Dieu est derrière tout ce qui est en train de se produire d'une manière absolument extraordinaire. Un ange du Seigneur le conduit dans un champ missionnaire incroyable pour l'envoyer d'un champ missionnaire incroyable pour l'envoyer dans un lieu désert. Pensez à ça juste un instant, là. La semaine dernière, on était avec Philippe en Samarie. Il est dans une place publique. Il aurait pu être lapidé sur place, rejeté par les Samaritains, mais ils reçoivent l'Évangile tellement que la rumeur se rend jusqu'à Jérusalem. On envoie des apôtres pour dire, mais hey, c'est extraordinaire, les Samaritains reçoivent l'Évangile, reçoivent le message de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, c'est incroyable. Et donc, il y a tout un ministère qui est là, puissant, merveilleux, fructueux, des conversions. Un ange du Seigneur est envoyé à Philippe pour lui dire, « OK, mon Philippe, c'est fini, tu t'en vas dans un lieu désert. Tu t'en vas sur une route déserte. » C'est Dieu qui est en train de diriger la mission. Et Dieu est en train de dire ici à Philippe qu'il doit aller dans un lieu improbable pour pouvoir faire quelque chose, et il n'y a pas plus de précision. Une fois que Philippe va être là sur place, il va voir justement cette caravane-là qui devait être assez grande, assez importante, puisque c'est un haut dignitaire qui est là. Et donc, il voit cette caravane, puis il est en train de marcher à côté de la caravane pour faire son petit bonhomme de chemin, puis il attend des directives quand, tout à coup, l'Esprit lui dit. On n'a aucune idée comment ça se passe. D'accord? Est-ce que c'est une intuition? Est-ce que Philippe a entendu une voix? Je ne sais pas, j'ai aucune idée, mais l'Esprit lui dit, ça c'est clair, l'Esprit lui dit, approche-toi du char. Là, il commence à avoir une bonne idée pourquoi est-ce qu'il est là, n'est-ce pas? Et lorsqu'il s'approche du char, il entend ce haut dignitaire qui est en train de lire dans Ésaïe. Ah ah! Voilà pourquoi j'ai été dispatché, voici pourquoi j'ai été envoyé à cet endroit-là. Et lorsqu'il a terminé son travail, l'Esprit l'a conduit ailleurs, il va l'envoyer ailleurs. Dans le passage qu'on va voir la semaine prochaine, on va voir ensemble que Saul va se convertir, le persécuteur de l'Église, mais on va voir aussi le Seigneur venir envoyer Ananias auprès de Saul. Dans le livre des Actes, nous voyons que malgré toutes nos stratégies, malgré tous les efforts que nous faisons, et Dieu veut que nous ayons des projets pour annoncer l'Évangile. Paul avait constamment des projets pour annoncer l'Évangile. Il savait dans quelle ville il s'en allait. Il avait son équipe avec lui qui formait. Toi, tu vas rester ici. Toi, tu t'en retournes là-bas. Il y a des choses à mettre en place là-bas. Moi, je m'en vais là. Dès que vous avez terminé, vous venez me rejoindre. Donc, Paul projetait énormément. Il avait des stratégies. Il avançait. Il savait où il s'en allait. Dans le livre des Actes, le Seigneur est en train de nous dire, et c'est ça que Luc veut faire ressortir à plusieurs reprises, c'est qu'au-delà de tout cela, au-delà de tout ce que nous, on peut organiser et entreprendre, c'est le Seigneur Jésus, par le biais de son Esprit, qui est le directeur de la mission. C'est lui qui dirige la mission. Est-ce que vous avez conscience de ça lorsque vous priez pour vos familles, lorsque vous vous demandez « est-ce que je vais faire un effort d'évangélisation cet été? » Est-ce que vous avez conscience qu'au-delà de tout ce que nous pouvons faire comme effort, comme plan de match, j'ai mes petites stratégies personnelles pour tel voisin, tel voisin, tel voisin, je vais leur écrire une carte, je vais leur donner ça, j'aimerais inviter lui. On vient de terminer les clubs pour enfants, on a des gens qu'on voit qu'on peut inviter, puis ça va être des belles opportunités de tisser des liens davantage et certainement de pouvoir parler du Seigneur Jésus. au-delà de tout ça, celui qui est le directeur de mission, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit la mission. Parfois de manière explicite comme ici. Parfois de manière moins explicite. Rappelez-vous, par exemple, lorsqu'il y a eu cette grande persécution à la suite de la mort d'Étienne. J'ai pris le temps de souligner dans cette prédication qu'il n'y a rien dans le texte qui nous dit que l'Esprit de Dieu était derrière la persécution. Au contraire. Je veux dire, c'est un homme fou, fanatique, Paul, seul à l'époque, qui est parti contre l'Église puis qui voulait zigouiller toute l'Église. Et donc, il n'y a rien dans le texte qui nous dit que c'est l'Esprit qui est derrière ça. Et pourtant, tu lis le passage, tu ne peux pas faire autrement que te dire « Jésus l'avait annoncé, l'Esprit est en train de l'accomplir. » Paf, on dispatche, on disperse l'Église pour que l'Église puisse aller annoncer l'Évangile partout. Et c'est ça qui est en train de se produire. Alors, à travers cette épreuve terrible pour l'Église, où il y a des gens qui sont décédés, il y a des gens qui ont des familles qui ont été divisées par la persécution, par les souffrances. En même temps, il y a quelque chose de glorieux dans le passage où l'Évangile est en train de se répandre. Les chrétiens persécutés deviennent des missionnaires. Et donc, dans ce passage, c'est pas explicite. C'est pas dit « l'Esprit est en train de faire ça », mais tu lis le texte et tu dis « mes amis, Dieu est partout là-dedans ». L'Esprit de Dieu est le directeur de la mission. C'est lui qui nous conduit dans la mission. Et nous avons, nous, à faire des projets pour pouvoir dire « hey, je pense que je vais aller là, lui, je vais y parler comme ça, j'aimerais ça parler à tel collègue, ce serait le fun d'aller prendre un café avec lui pour pouvoir lui parler un petit peu, j'ai vu qu'il vivait quelque chose, peut-être j'aurai l'occasion juste de lui offrir de prier pour lui, après ça de parler du Seigneur ». C'est génial d'avoir tout ça. Mais celui qui dirige la mission, c'est l'Esprit de Dieu. Et ça va faire toute la différence dans tous les efforts que je vais faire. Si je suis convaincu qu'au-delà de tous mes efforts, de tous mes projets, de tous mes plans, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit. Et il y a un grand nombre d'entre vous qui, lorsque vous vous rappelez du jour de votre conversion, dans votre cœur, vous avez cette conviction que l'Esprit de Dieu avait dirigé. Un grand nombre d'entre vous avez expérimenté des choses autour de votre conversion et vous les regardez après puis vous dites « mais c'est tellement clair que Dieu était derrière ça ». Ça fait toute la différence quand je prends à cœur d'annoncer l'Évangile, de savoir que le directeur de mission, ce n'est pas Yannick Étier. Le directeur de mission, ce n'est personne ici. Le directeur de mission, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'accomplir ses bons projets à travers ses serviteurs. Deuxièmement, l'Esprit offre l'Évangile partout et à tous. Dans Actes 1, 8 et 9, Jésus dit que l'Évangile va être envoyé, qu'ils vont aller annoncer l'Évangile par l'Esprit de Dieu, une puissance survenant sur vous. Vous allez annoncer l'Évangile à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie la semaine dernière et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais je crois que Luc ne pouvait pas illustrer de manière plus puissante cette idée que l'Évangile va se rendre jusqu'aux extrémités de la terre qu'en donnant l'Évangile à un Éthiopien. Voyez-vous, si vous êtes familier avec le livre des Actes, nous on lit ça, puis là Paul va se rendre à Rome, puis c'est impressionnant tout ça, mais vous êtes encore à l'intérieur de cette domination-là, vous êtes encore à l'intérieur d'un cercle relativement restreint. Mais dans ce passage, le Saint-Esprit conduit clairement un des serviteurs à venir donner l'Évangile à un Éthiopien qui s'en retourne dans son pays. Et donc, l'Évangile va partir dans ce qui illustre à l'époque l'extrémité de la terre. L'Évangile va aller jusqu'au bout. Et Luc veut nous aider à réaliser que l'Esprit, c'est pas juste, Luc veut pas juste nous dire, écoutez l'Église, vous devez apporter l'Évangile jusqu'au bout de la terre. Non, Luc est en train de nous dire plus que ça. Il est en train de nous dire, l'Esprit de Dieu offre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça qu'il est en train de nous dire ici. En donnant l'Évangile à cet Éthiopien dans une situation improbable, cet homme-là se convertit puis il repart seul. OK, les Écritures, il y a eu un crash course à travers l'Ancien Testament. Jésus est partout. OK, Jésus est partout. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il a fait avec ça. L'Esprit offre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, donc il offre l'Évangile partout. Vous savez qu'il y a des gens qui ont réalisé qu'avec tous les étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde étudier dans les grandes villes en Amérique du Nord, on a une super opportunité. d'annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez déjà entendu parler de ça? Cette stratégie toute simple qui est de dire, ben, allons évangéliser à l'université, allons évangéliser dans ces milieux-là où des gens viennent de partout pour étudier, mais ils s'en retournent dans leur pays 2, 3, 4 ans plus tard. Et si on peut leur donner l'Évangile, ils vont repartir avec l'Évangile dans leur pays. C'est ce que l'Esprit est en train de faire ici. Et le message que Dieu est en train de nous dire, c'est que notre rôle à nous est d'offrir l'Évangile partout. Parce que l'Esprit veut l'amener jusqu'aux extrémités de la terre. Je crois personnellement que la conversion de Corneille, un petit peu plus loin, encore une fois pour ceux qui ont déjà lu le livre des Actes, Corneille, un païen, va se convertir. Je crois que ce moment-là est le moment clé où Dieu est en train de confirmer que l'Évangile est offert aux païens, parce que Pierre va être là, va présider ce moment-là. Et donc, il y a quelque chose de spécial, encore une fois, avec une effusion de l'Esprit d'une manière particulière, comme ça s'est passé avec la Samarie, comme ça s'est passé à la Pentecôte. Et donc, je crois que ces moments-là sont des moments forts. Mais déjà, Luc est en train de passer le message. L'Évangile doit se répandre sur toute la terre. Et l'Évangile va aller non seulement à Jérusalem, non seulement dans la Judée, non seulement en Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va l'accomplir, ça. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous conduire vers ces gens-là et qui va nous conduire certainement à partir pour aller rejoindre ces gens-là. L'Esprit de Dieu offre l'Évangile partout et à tous. Il y a quelque chose d'absolument beau dans ce texte-là, parce que l'Évangile est offert... Lorsque je dis à quelqu'un d'improbable, c'est pas juste les circonstances. Une rencontre dans un lieu désert... un espèce de momentum extraordinaire où il est en train de lire tel passage. Il faut aller un petit peu plus loin que ça. L'Évangile est offert à un haut dignitaire éthiopien, tout probablement un païen, on ne peut pas être 100% sûr de ça, mais tout probablement pas un juif, mais un païen. Mais en plus de ça, un eunuque, ce qui n'était pas rare à l'époque. Un eunuque, c'est un castrat, donc c'est un homme qui a été castré, et donc qui est consacré au service. Ce n'était pas rare comme coutume, consacré au service de la reine, et c'était des hauts dignitaires. Maintenant, si vous êtes familier un peu avec l'Ancien Testament, vous savez qu'il y avait toute cette notion, pour faire partie du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, il y avait cette notion de pureté qui allait jusqu'à s'illustrer physiquement. Et donc, les castrats dans l'Ancien Testament n'étaient pas admis au sein du peuple de Dieu, ils ne pouvaient pas devenir des adorateurs. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans le livre d'Ésaïe, puisque tout à l'heure, on va le regarder parce que cet homme-là est en train de le lire. Mais j'aimerais vous demander de tourner avec moi dans Ésaïe 56. Ésaïe 56, au verset 3. On va lire les versets 3 à 6. C'est une prophétie, évidemment, Ésaïe, c'est un prophète. Alors, il annonce des choses grandes que Dieu va faire, des choses qui peuvent être parfois obscures et qui vont devenir plus claires lorsqu'elles vont s'accomplir. Certains vont jusqu'à croire que le passage que je vais vous lire là a été écrit pour cet eunuque-là précisément. Je crois que c'est plus large que ça encore, mais c'est possible. Ésaïe 56, verset 3. « Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, « L'Éternel me séparera de son peuple. » Et que l'eunuque ne dise pas, « Voici, je suis un arbre sec, impur, pas admis au sein du peuple de Dieu, parce que je ne suis pas entier physiquement. » Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. » L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que cette montagne sainte, c'est Christ. Et que nous nous sommes approchés de cette montagne sainte, que nous l'avons touchée. Cet eunuque-là, qui est probablement un païen, est admis ici dans la famille de Dieu. Et Dieu nous révèle son cœur sur des gens qui, pour toutes sortes de raisons culturelles, voire religieuses, ne sont pas les gens vers qui tu irais normalement. Luc avait commencé à développer ce thème-là avec les Samaritains la semaine dernière, rappelez-vous. Philippe est envoyé auprès de gens qui sont méprisables aux yeux des Juifs. Philippe est envoyé auprès de gens qui ne connaissent pas Dieu, qui comprennent mal Dieu, qui ont déformé les Écritures, qui se sont développés leur propre culte, des gens qui sont haïs. Et pourtant, Philippe est envoyé vers eux et Philippe va conduire plusieurs et plusieurs et plusieurs personnes au Seigneur. Dans le passage d'ici, nous voyons le cœur de l'Éternel. Nous voyons le cœur de Dieu pour tous ces gens qui, à nos propres yeux, ne sont pas les personnes qui devraient entrer dans le royaume de Dieu. À nos propres yeux, ne sont pas les gens qui probablement accepteraient l'Évangile. Ne sont pas les gens que nous voudrions avoir parmi nous. Si j'avais la possibilité aujourd'hui d'ajouter 150 personnes à l'Église ici et que je les choisissais comme il faut dans la société et que tout d'un coup ces 150 itinérants-là devenait membre de l'Église de l'Espoir, il y aurait un malaise profond dans l'Église. Et nous commencerions à chercher, plusieurs d'entre nous, une manière de dire « Je ne me reconnais plus ici, je pense que je serais mieux dans une plus petite assemblée. » Mais en fait, ce qui se passerait, c'est que l'arrivée de ces gens-là à l'Évangile nous dérangerait de manière olfactive et de toutes sortes d'autres manières. L'Esprit de Dieu ici conduit Philippe à aller vers un eunuque parce que depuis toujours, dans le cœur de Dieu, il y a eu ce désir d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son royaume aux gens les moins probables, aux gens les moins acceptables, à ceux qui, à nos yeux, sont des impurs. Qui sont les impurs pour toi lorsque tu regardes la société? Il y en a encore. Juste à lire le journal. Il y a encore des gens de qui tu as dédain, de qui j'ai dédain. Et lorsque je dois aller vers eux, je dois me raisonner avant de me rendre là parce que mon cœur ne va pas spontanément vers ces gens-là. Le cœur de Dieu est ouvert pour ces personnes-là parce que Christ est venu chercher des pécheurs. Et ici, Luc est en train de nous dire que c'est l'Esprit de Christ qui leur offre l'Évangile. Est-ce que ça aurait passé par la tête à Philippe d'aller parler à cet eunuque? J'ai tendance à croire que oui, en voyant son cœur. Mais la question ne se pose même pas ici. Ce qui nous est dit, c'est que l'Esprit de Dieu voulait que Philippe aille vers cette personne-là. Qui sont les personnes autour de toi qui, pour toutes sortes de raisons, je sais, on n'est pas comme les gens de cette époque-là qui jugeons sur des handicaps physiques puis des choses semblables. Alors, pourquoi est-ce que vous jugez les gens? Dites-moi là. Prenez ces raisons-là, ça va me suffire. Qui sont les impurs autour de vous? Vers qui vous n'êtes pas porté à aller? Moi, je vous dis que si vous n'êtes pas porté à aller vers eux, l'Esprit de Dieu veut probablement que vous alliez vers eux. Je ne prendrai pas la place de Dieu ici. Mais l'Esprit de Dieu veut probablement que vous alliez vers eux. Et si vous n'êtes pas porté à aller vers eux, il y a des bonnes chances qu'ils ne soient pas portés à venir vers vous. Et pour vous, d'accepter une direction de l'Esprit pour aller vers ces gens-là, c'est probablement déjà commencer à avoir le parfum de l'Évangile dans votre intervention auprès d'eux, dans votre approche, dans votre ouverture vers eux. Qui sont ces impurs autour de vous? Vers qui l'Esprit de Dieu veut vous conduire? Parce que Dieu les aime déjà. Dieu les aime déjà. Et Dieu veut que nous allions vers eux. Et Dieu veut que cette Église-là ait toute la place pour ces gens qui dérangent, qui nous dérangent parce qu'ils ne sont pas comme nous, parce qu'ils ont plus de besoins que nous, parce qu'ils sont moins indépendants que nous, parce qu'ils ont besoin qu'on soit là constamment pour prendre soin d'eux. Dieu veut que l'Église ait un cœur ouvert pour ces gens-là. En fait, il veut que nos foyers soient ouverts pour ces gens-là. Il veut que nous les invitions chez nous à la Saint-Jean pour faire un barbecue avec eux. Même si ça se peut qu'ils soient un petit peu trop rapides à sauter sa caisse de bière. L'Esprit de Dieu offre l'Évangile partout et à tous. L'Évangile ne connaît pas les barrières et les préjugés que nous avons dans nos cœurs. La semaine prochaine, Dieu va nous le montrer encore d'une manière puissante à travers la conversion de Paul. Cet homme-là était misérable. Cet homme-là était abominable. C'était un persécuteur de Christ. Il avait massacré des saints. Les martyrs prient dans le livre de l'Apocalypse pour dire « Quand nous rendras-tu justice? Quand vengeras-tu notre sang? » Ben, ça ne sera pas en zigouillant Paul, en tout cas, parce qu'il y avait de la place dans le royaume de Dieu pour l'apôtre Paul. L'Évangile ne connaît pas ces barrières-là. Et l'Esprit de Dieu veut nous conduire au-delà de toutes ces barrières-là pour pouvoir annoncer l'Évangile et aller atteindre ces gens qui sont dans notre cœur, si on veut être honnête avec nous-mêmes, ce sont des impurs. Ce sont des gens répugnants. Mais l'Esprit de Dieu veut nous conduire auprès de ces personnes-là. Une des choses extraordinaires dans le passage, et c'est sûr que c'est un texte impressionnant parce que c'est un rendez-vous divin qui se passe ici, mais nous voyons évidemment que l'Esprit connaît les cœurs et il est entièrement souverain. C'est comme le candidat parfait à qui tu voudrais parler du Seigneur. Hein? Son cœur est tout préparé. C'était déjà un adorateur. C'est un haut dignitaire éthiopien qui a fait la route jusqu'à Jérusalem pour venir adorer. Il y avait des communautés juives un peu partout dans la région très, très éloignée, dans de nombreux pays, en raison des déportations, entre autres. Et donc, il y avait des communautés juives un peu partout avec des synagogues dans un grand nombre de villes. Et les gens s'intéressaient à la foi de ces Juifs parce qu'ils annonçaient ce Dieu unique qui tranchait de manière tellement significative avec leur polythéisme, leurs nombreux dieux faits à mesure d'hommes. Mais ici, les Juifs adoraient un Dieu unique, seul créateur, roi de la terre et des cieux. Et donc, plusieurs personnes s'intéressaient à ce message-là. Ce haut dignitaire éthiopien a fait la route pour pouvoir aller adorer à Jérusalem. Et possiblement que dans son voyage, il a entendu des lectures des Saintes Écritures. Tout au plus, il a pu accéder au parvis des gentils dans le parvis du temple. Mais il a entendu des lectures des Écritures et lorsqu'il s'en retourne, il essaie de faire du sens avec ces textes-là. Il est intrigué par les textes prophétiques, de quoi ça parle, quand est-ce que ça va se produire, qu'est-ce qui va arriver avec ça. Son cœur est disposé, son cœur cherche. Et le simple fait que l'Esprit de Dieu a conduit Philippe à ce moment-là pour être sur ce trajet-là, qu'il entende la lecture d'Ésaïe 53 et qu'il puisse annoncer l'Évangile à partir de là, nous devons réaliser que l'Esprit de Dieu connaît les cœurs. Lorsque je m'en vais annoncer l'Évangile, j'ai pas besoin de connaître les cœurs. J'ai pas besoin de savoir. Comme on va le voir dans quelques instants, Philippe n'allait pas qu'à des rendez-vous divins. Le rendez-vous divin d'Étienne, ça s'est fini avec une roche dans le front. Mais je n'ai pas besoin de connaître les cœurs. Ce qui est important de réaliser, c'est que l'Esprit de Dieu connaît les cœurs. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre déjà dans la vie d'individus qu'il est en train d'attirer à Dieu. L'Esprit de Dieu est souverain sur les personnes qui vont se convertir. Tu es à l'école, il y a 30 personnes dans ta classe. Combien de ces gens-là vont devenir chrétiens dans les 10 prochaines années? Tu peux-tu me le dire? Parce que tu n'es pas, Dieu merci, tu n'es probablement pas le seul chrétien qu'ils vont rencontrer. Peut-être que tu as déjà commencé à parler du Seigneur à quelques amis en classe, mais ils ne veulent rien savoir. Cette semaine, j'écoutais Jade et Mélina jaser alors que j'allais les reconduire au camp des boulots. Puis, à un certain moment donné, le professeur a fait lever la main en classe, dans la classe de Mélina, puis il a demandé « Qui va dans un service religieux le dimanche ici dans la classe ou le samedi? » Il y a comme une quinzaine de personnes qui ont levé la main. Oh, c'était frappant. Puis là, il y a un élève qui a dit « Oh, ouais, mais c'est parce que les parents, lui, les forcent à aller là, tu sais. » Fait que le prof a renchéri, puis il a dit, « OK, combien est-ce qu'il y en a qui y vont par conviction? » 5, 6, 7 jeunes ont levé la main, puis ils étaient fiers de dire, « Non, moi, c'est par conviction personnelle. » Jade, par contre, disait, « Moi, je pense que je suis la seule croyante dans tout mon groupe. Il n'y a personne qui dit qu'ils sont croyants. Ils se disent tous athées. » Tu essaies de parler du Seigneur à tes amis à l'école, puis il y a 30 personnes dans ta classe, 25 personnes dans ta classe. Combien d'entre eux vont devenir chrétiens cette année, dans les 10 prochaines années, vont devenir chrétiens tout simplement avant d'aller rencontrer, faire face à Dieu? Nous, on ne le sait pas. Mais voyez-vous, l'Esprit de Dieu est souverain et lui le sait. Lui sait qui va venir à Christ. Il est à l'œuvre, il connaît les cœurs. Et ça, ça fait toute la différence quand je m'en vais annoncer l'Évangile. Parce que je n'ai pas besoin de me tracasser à savoir si est-ce que je vais faire une bonne job, est-ce que je devrais, si c'est peut-être quelqu'un d'autre qui devrait parler. Bien sûr, on essaie de bien faire, d'apprendre nos 40 versets, puis on veut être, prêt, là. C'est vrai. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. C'est lui qui connaît les cœurs. Mon travail à moi, c'est juste d'ouvrir la bouche. Et ça fait toute la différence de savoir qu'il est là, qu'il est souverain, qu'il est en train de veiller. Faisons confiance à l'Esprit pour annoncer sa parole. C'est lui qui les connaît les cœurs. Nous, notre mandat, c'est simplement d'ouvrir la bouche. Et comme avec cet Éthiopien qui vient de loin, qui était quelqu'un qui, pour des raisons culturelles, répugnait naturellement Philippe, l'Esprit offre l'Évangile partout sur la terre et à tous. Et nous devons répandre l'Évangile de la même manière. Notre rôle à nous, puisqu'on n'est pas les directeurs de mission, c'est de laisser l'Esprit nous conduire et d'ouvrir la bouche. Simplement. C'est lui qui dirige. Notre rôle, le laisser nous conduire et ouvrir la bouche. Philippe laisse le Seigneur le conduire. On a vu dans Actes 6 que Philippe était un homme rempli de l'Esprit. Ça peut quand même aider un petit peu pour laisser le Saint-Esprit le conduire. Et donc, définitivement, Philippe était un homme de Dieu qui cherchait la face de Dieu, qui voulait marcher dans les voies de Dieu. Alors, définitivement, Philippe avait cette prédisposition dans son cœur pour laisser l'Esprit de Dieu le conduire. Mais il va laisser l'Esprit de Dieu le conduire dans un endroit improbable. Il va quitter un champ de mission prospère, qui va super bien, pour s'en aller dans une région où... En principe, il n'y aura pas de fruits à cet endroit-là. La semaine dernière, j'ai cité William Carey, le père de la mission moderne, qui disait « Expect great things from God, attempt great things for God, attendez-vous à de grandes choses de Dieu, tentez de grandes choses pour Dieu. » Et lorsque lui s'est rendu en Asie, je l'ai mentionné, les 6-7 premières années, aucun fruit, aucune conversion, très peu d'ouverture, pas de contact, les murs culturels étaient tellement grands qu'ils ne pouvaient pas entrer en contact. Il a été créatif, il a cherché des moyens, créé des jardins communautaires pour aider ces gens-là qui souffraient de la pauvreté à sortir de là. Il a fait des démarches même sur le plan politique pour protéger des veuves de certaines circonstances tragiques qu'elles vivaient, mais aucun fruit. Et pourtant, des années plus tard, le champ de mission va s'épanouir là-bas d'une manière incroyable et ça va rester comme ça jusqu'à aujourd'hui, le témoignage de William Carey dans ces régions-là. Philippe laisse l'Esprit le conduire dans une région improbable. C'est sûr qu'on voudrait toujours que ça tourne comme ça, n'est-ce pas? Avec un rendez-vous divin incroyable, puis la personne se convertit la journée même. Écoute, une coupe d'heure avec lui, puis tu le baptises. Oh, c'est génial. Mais le point de départ, c'est que Philippe laisse Dieu le conduire. Dans ce texte-là, c'est vrai que c'est de manière extraordinaire. Vous allez me dire, écoute, le jour où il y a un ange qui m'apparaît, je commence à évangéliser. Je sais pas. Moi, je commencerais tout de suite, puis je me dirais, si je le fais, ça se peut qu'un jour, il y en a un qui me dise, « OK, aujourd'hui, je te donne un anan, mon homme. » Tu t'en vas à cette adresse-là, tu auras ça une belle conversion. Philippe était déjà un homme rempli de l'Esprit. Philippe laisse l'Esprit le conduire dans une région peu probable et il s'en va simplement annoncer l'Évangile. Et il connaît cette journée-là. Écoutez, ça a fait sa journée de manière vraiment superbe. Pourtant, il vient de voir probablement des dizaines, voire des centaines de conversions en Samarie. Mais de voir le gars qui est en train de lire ce passage-là à ce moment-là. Oh. Philippe annonce l'Évangile. Je pense que Luc, en nous donnant Philippe comme exemple, puis je suis reconnaissant à Dieu qu'il le fasse de cette manière-là, il nous montre simplement que Philippe est un gars qui annonçait constamment l'Évangile. Je vous ai parlé il y a quelques semaines de Richard von Braun qui a souffert, qui a été 13 ans dans des prisons communistes, nazies avant ça, tout ça pour l'Évangile. Et puis dans sa biographie, il raconte des moments où il y a des conversions incroyables. Une fois, il s'en va sur la rue. Je pense que je voulais pas compter. Il s'en va sur la rue et puis il y a une dame qui est là. On est en 1953. C'est pas tellement approprié pour un homme d'accoster une femme sur la rue en 1953. Alors il s'en va directement vers elle et puis il lui dit: je m'excuse, madame. Je sais que c'est pas approprié pour un homme de vous approcher comme ça, mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez Christ? Puis la dame lui dit: vous connaissez Christ? Puis elle se met à pleurer, puis elle lui tombe dans les bras, puis elle commence à lui faire des grosses accolades. Il veut fondre. Vous comprenez, c'est pas approprié de faire ça à cette époque-là, en pleine rue, avec une étrangère. Il ramène cette dame-là à la maison pour qu'elle rencontre son épouse, et puis il commence à jaser avec elle. Et cette dame-là leur dit tout simplement, ce qu'il découvre, c'est qu'elle avait entendu parler de Christ parce que sa grand-mère était chrétienne avant que le régime communiste vienne prendre tout son essor. Et donc, dans son enfance, elle avait entendu sa grand-mère se réfugier dans cette personne-là, Christ. Mais tout ce qu'elle avait, c'était le nom. Elle savait pas ce qu'il avait fait, connaissait pas son histoire, savait pas qu'il était mort sur une croix. Elle n'avait aucune connaissance. Elle n'avait qu'un nom. Et ce nom-là, à cause du témoignage de sa grand-mère, était pour elle un symbole, un emblème de refuge, de paix, de repos dans cette tragédie qu'il vivait à travers le communisme, l'athéisme, où tout était là juste pour l'État. Et pour elle, c'était toujours resté comme un mot précieux, vide de sens, sinon dans son cœur, une sécurité. Et lui ont prêché l'Évangile, elle s'est convertie. Mais quand j'étais en train de lire ça, puis je me disais: écoute, moi, Seigneur, des comme ça, j'en prends tous les jours, tu sais. Mais la deuxième pensée qui m'est venue, c'est: OK, je veux dire, en sortant, tu devrais croiser une dame sur la rue. Est-ce que vous connaissez Christ? Es-tu prêt à faire ça, Yannick? Parce que lorsque tu lis la biographie de Richard von Braun, ce que tu te rends compte, c'est que ce gars-là, il a dû se faire rejeter 100 fois, 1000 fois pour voir une âme venir à Christ. Dans son cas, rejeté, battu 100 fois. Percé, torturé. Et ce que tu réalises, c'est qu'il annonce l'Évangile. Il annonce l'Évangile, puis à travers les dizaines, centaines, milliers de fois où il annonce l'Évangile, il y a des conversions. Philippe annonçait l'Évangile. Il ouvrait la bouche pour Christ et il annonçait l'Évangile. Il nous est dit que ceux qui ont été persécutés se sont dispersés et ils allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Philippe annonçait l'Évangile. Et on a des gens dans l'Église ici qui ont conduit plus d'âmes au Seigneur que moi, mais ce sont des gens qui annoncent constamment l'Évangile. Philippe annonçait l'Évangile. Toute occasion, favorable ou non, parfois ça se terminait avec une coupe de roche dans le front, comme Étienne. Parfois ça se terminait avec des rendez-vous divins. L'Esprit n'en demeure pas moins souverain sur tous ces efforts-là. Philippe annonçait l'Évangile. Et dans le passage ici, il sert de guide. Philippe va servir de guide. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que, premièrement, ça nous parle de Philippe. Ça veut dire qu'il connaissait les Écritures. Quand il a entendu ce haut dignitaire être en train de lire dans Ésaïe 53, oh boy, Philippe a dû être excité parce que vous comprenez qu'il ne pouvait pas être en train de lire Jean 3:16. Vous l'avez catché, hein? On a un anachronisme important. Nouveau Testament n'est pas écrit, là. D'accord? Il faut qu'il lise dans l'Ancien Testament. Moi, je préfère Ésaïe 53 à Genèse 1:1. C'est moins long. Tu arrives plus vite à la croix. Mais Philippe connaissait la parole. Philippe était prêt à annoncer l'Évangile. Et en commençant avec Ésaïe 53, un passage éminemment christologique, très clair, il est parti de là et puis il a commencé à annoncer l'Évangile à cet homme-là. Et Philippe n'était pas pressé. Hein? Ça n'a pas été comme, OK, j'ai 2 minutes, il faut que je passe à travers mes points, on va aller dans tel texte, je te remercie, tu prieras là-dessus. Si le Seigneur met ton cœur bien disposé, tu pourras faire une prière. Tu me rappelles, je te laisse mon cellulaire. Ça a duré des heures, cette histoire-là. Pensez-y, ça a duré littéralement des heures. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais il lui présente Christ à travers l'Ancien Testament à partir d'Ésaïe 53. Et lorsqu'on termine, l'Éthiopien dit, « Mais qu'est-ce qui empêche que je me fasse baptiser? » J'ai manqué un bout, là. On est passé d'Ésaïe 53 au baptême en Jésus. Il manque un morceau, là. Ce sont les heures qui nous manquent entre les deux. Ou à partir de là, Philippe lui a dit, « Oui, mais attends, ces prophéties-là parlent de quelque chose qui vient de s'accomplir dernièrement. » Ça parle d'un Messie qui doit venir. Il est venu, là, tout récemment. Ça a troublé Jérusalem en entier. C'est en train de se répandre partout. Je l'ai connu personnellement. Il a changé ma vie. J'ai été pardonné de mes péchés. J'ai reçu l'Esprit Saint parce que je me suis repenti. Et aujourd'hui, on l'annonce partout. Et des milliers de personnes se font baptiser au nom de Jésus-Christ. Philippe a servi de guide ici à cet homme-là à travers les Écritures. Et permettez-moi de faire une métaphore un petit peu, d'accord? Permettez-moi de faire une métaphore. Comme j'ai mentionné, c'est la même expression qu'on a dans les évangiles lorsqu'il est question des aveugles qui conduisent des aveugles. Je crois que notre rôle à nous, c'est de laisser l'Esprit-Saint nous conduire, être prêt à annoncer la bonne nouvelle en toute occasion, favorable ou non, juste annoncer l'Évangile, tout simplement, et être capable d'écouter ce qui est en train de se passer dans la vie de la personne pour pouvoir la guider à travers les Écritures. Quand je sais que je décolle de mon texte quand je dis ça, mais je crois que c'est notre rôle. Parce que Philippe s'est adapté. Il est parti ici d'Ésaïe 53. Ça se peut que la personne avec qui tu parles ne connaisse rien de la Bible. Dans notre culture, c'est beaucoup plus probable, n'est-ce pas? Mais cette personne-là, si elle est ouverte au message que tu lui apportes, a besoin que tu la guides. A besoin que tu sois capable de la prendre là où elle est, dans ce qu'elle vit, ce qui amène une ouverture dans son cœur à l'Évangile, pour pouvoir la conduire à travers les Écritures, à connaître l'Évangile. Ça ne veut pas dire que tu vas aller dans Jean 3,16 à la première rencontre. Tu vas servir de guide sous la direction du grand guide qui est l'Esprit de Dieu. Et cette personne-là est en train de vivre quoi à ce moment-là? Où est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est par une parole d'encouragement à l'intérieur de la parole de Dieu? Est-ce que c'est par un proverbe que tu vas ouvrir la porte pour commencer? Cette personne-là va être confrontée avec sa grande difficulté à vivre la sagesse divine. Ah, tu vas pouvoir lui parler de son cœur à ce moment-là. Voyez-vous, notre rôle à nous, c'est de laisser l'Esprit-Saint nous conduire, c'est d'annoncer abondamment la parole, et il va y avoir de ces rendez-vous divins extraordinaires, mais c'est aussi de connaître la parole pour être prêt à servir de guide à cette personne-là. Ça sous-entend que je lis les Écritures pour que les Écritures soient déjà un guide dans ma vie. J'ai des difficultés dans mon couple, j'ai de la misère à me maîtriser personnellement. Je vis de l'anxiété. Je vis des difficultés au travail. Je cherche qu'est-ce que je dois faire avec mes enfants qui sont maintenant des ados. Est-ce que la parole de Dieu est déjà ton guide à toi? Est-ce que c'est déjà une ressource où tu vas puiser régulièrement et lorsque tu vis des difficultés, tu as appris à te nourrir de cette parole-là pour qu'elle te guide? Parce que lorsqu'on commence à annoncer l'Évangile, je ne peux pas simplement à tous les coups sortir mon plan de EE. Comprenez? Je veux y arriver, là. Je veux arriver là. Je veux leur présenter l'Évangile, mes amis. Super clair. Les conduire. Mais ce n'est pas à tout coup que je vais pouvoir commencer par là. Parce que je ne sais pas quelle est la porte d'entrée. C.S. Lewis disait que la souffrance est le porte-voix de Dieu. Je vous l'ai déjà cité à plusieurs reprises. La souffrance, c'est souvent le moyen par lequel Dieu dit « Hey, oh, je suis là. » Richard von Braun, encore, qui annonçait l'Évangile à des militaires russes athées, discutait avec un à un moment donné, puis il était en train d'argumenter avec lui, puis il disait « Non, moi, je ne crois pas en Dieu, puis tout ça. » Puis M. von Braun a juste dit « Comment ça se fait que vous priez lorsque vous êtes sur le front? » Puis cet homme-là a dit « Vous avez raison, on prie. » lorsqu'on est sur le front et on a peur. Mais on est athée. Et ainsi, il pouvait servir de guide pour parler de cette pensée qui est là dans le cœur de l'homme, ce réflexe qui est là de savoir qu'il y a un Dieu. Lorsque vous commencez à ouvrir la bouche pour annoncer l'Évangile, il est très probable que qu'un de vos rôles, ce soit de servir de guide dans la parole de Dieu, pour pouvoir conduire cette personne-là à la connaissance de Jésus-Christ, mais selon les circonstances, selon ce que cette personne-là est en train de vivre. Et ça va être un processus. Ça ne prendra peut-être pas juste 10 minutes, ça va peut-être prendre quelques heures, voire quelques jours. Voire quelques jours encore. Philippe est prêt à l'écouter, à voir où il est, à lui servir de guide. Et c'est souvent ça le rôle qu'on a à faire. On prie à l'Église de l'Espoir pour que Dieu fasse de nous des gens de prière et des gens qui annoncent l'Évangile. Est-ce que vous êtes prêts à prendre là où vous êtes dans votre proclamation de l'Évangile et à placer ça comme une requête devant Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à en faire une priorité? Vous savez que les anciens prient pour ça. Il y a des gens dans l'Église qui prient pour ça. Mais la décision, c'est la vôtre. C'est votre décision. Personnellement, je suis très insatisfait de ma proclamation de l'Évangile. Si vous me faites passer un examen, Yannick Étier n'est pas content du nombre de fois où il annonce l'Évangile aux gens autour de lui. Et j'en ai fait une prière plus que quotidienne. Et je me suis donné des trucs pour me rappeler de prier là-dessus. Et Dieu est en train d'ouvrir des portes vraiment intéressantes. Cette semaine, on a terminé les clubs, puis les clubs pour enfants avec toute la gang, Prof Dino, tout ça. Puis on a reçu les parents avec les enfants pour un souper hot dog. Je termine sur ça. On a reçu les enfants pour un souper hot dog, tout ça. Et puis souvent, on est juste avec les enfants. Hein? Là, on a reçu les enfants et les parents. Souvent, on est juste avec les enfants, ils viennent nous reconduire les parents viennent nous reconduire leurs enfants, puis là, ils quittent, puis tout ça. Puis dans notre époque, dans notre contexte, ça va vite, tout ça. T'as l'impression des fois que t'es un peu un service de garde. Tu sais que c'est pas ça, mais bon, OK. Oui, c'est l'approche qu'on a décidé de prendre pour entrer en contact avec des gens avec qui on l'était pas. Et puis, on a décidé, OK, comment est-ce qu'on termine la saison? On reçoit toute la gang pour un souper hot dog. Les jeunes de collège et carrière sont venus nous servir. Et notre but, c'était juste de les remercier de nous avoir fait confiance, de nous avoir laissé leurs enfants, remercier les bénévoles, leur parler de l'automne, tout ça, puis apprendre à les connaître. Et vous savez quoi? Lorsqu'on a terminé la soirée, à un moment donné, évidemment, je ne voulais pas nécessairement être celui qui mettait tout de suite l'Église sur la sellette à ce moment-là. Ils savent que l'Église prête des locaux et tout ça, mais quand, comment, qu'est-ce qu'on fait exactement? Fait que je donne la parole à Gérard, à Prof Dino, après avoir remercié les bénévoles. Puis Gérard embarque, puis il dit, je voudrais remercier, vous savez quoi, l'Église de l'Espoir prête ces locaux-là. En fait, les loue pour $1 par année. Nous prête ces locaux-là, et la majorité des bénévoles que vous voyez ici, c'est des gens de l'Église. Puis Yannick, mais c'est pas de sa faute, mais il est pasteur. Fait que... Puis ils nous ont présenté à tout le monde, puis vous savez quoi, toute la gang était là, puis on regardait les yeux, on regardait qu'est-ce qui va se passer. Les gens étaient tellement reconnaissants. Ils étaient tellement reconnaissants. Fait qu'on les a salués, on a jasé avec. Il y a un monsieur qui nous a dit, « Hey, chez vous le dimanche, ça a l'air de rocker pas mal. Drum sur stage. » Puis il est allé voir Oscar, il a dit, « Quoi, il y a des jeunes à l'église. » Mais vraiment, c'était génial, c'était super agréable. Puis on a terminé ça, jasais avec quelques-uns dans le petit groupe, tout ça, puis on se disait, mais là, les portes sont toutes ouvertes. Là. C'est clair que on peut inviter n'importe lequel, 3-4 familles là-dedans, ils viennent prendre un barbecue chez nous en fin de semaine prochaine. Et on va avoir l'opportunité. Il y a une dame qui était là déjà, oups, on s'en allait dans le sujet. Est-ce que vous êtes prêts vous-même à placer cette requête-là devant Dieu? Voyez-vous, moi, pour moi-même, j'en ai fait une requête quotidienne à plusieurs reprises par jour. Je ne demande pas à Dieu de me donner des conversions. Oh, que je demande à Dieu de donner des conversions aux Québécois. Je vois des milliers de Québécois venir au Seigneur. Et ça, je les réclame régulièrement au Seigneur. Pour moi-même, c'est pas vraiment ça qui me tracasse. C'est simplement de me voir et de m'entendre annoncer l'Évangile régulièrement. Et je prie pour l'Église, pour que l'Église fasse ça. Et les anciens prient pour ça. Et des gens dans l'Église prient pour ça. Mais chacun d'entre nous doit prendre cette décision-là personnelle. Personnellement, chacun doit décider, évaluer s'il est satisfait, ne pas se camper, je vous en prie, dans des positions où vous dites, « Mais c'est pas mon appel, moi je suis pas appelé à faire ça. » Chacun là où on est appelé à le faire. À la mesure de nos dons, à la mesure de nos talents, nous sommes tous appelés à le faire. Est-ce que vous êtes prêts à faire de ça une requête régulière talonnant Dieu comme la veuve avec le juge unique pour dire, « Seigneur, sanctifie-moi parce que j'ai honte de ton évangile. Seigneur, sanctifie-moi parce que je ne crois pas en toi quand je dois ouvrir la bouche. Seigneur, sanctifie-moi parce que je vois mes limites tellement grandes que je ne vois pas comment tu pourrais surpasser mes limites. Seigneur, sanctifie-moi parce que je suis paresseux. Je ne veux pas étudier ta parole pour la voir sur le bout de la langue quand c'est le temps d'ouvrir la bouche. Seigneur, sanctifie-moi parce que ton esprit est tellement attristé dans ma vie par toutes sortes de péchés. Comment est-ce que je pourrais même aspirer à vivre la plénitude de l'esprit? Mais Seigneur, fais-le. Fais-le pour la gloire de ton nom et pour mon plus grand bonheur. Est-ce que vous êtes prêts à faire cette prière-là? Je demande à Dieu que chacun dans cette salle arrive à cette disposition de cœur. Et si personnellement tu ne connais pas Jésus-Christ, écoute, après le message de ce matin, tu sais que je suis disponible, viens me voir après. Ça va me faire vraiment plaisir d'avoir un rendez-vous divin avec toi pour te parler personnellement de Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu connais mon cœur et tu connais mes insatisfactions, Seigneur, et combien je veux être comme toi. Et je ne veux pas le faire, Seigneur, pour bien paraître. Je veux le faire parce que je t'aime, parce que tu es mort sur la croix pour mes péchés, parce que j'ai à cœur, Seigneur, d'être un pasteur irréprochable en toutes choses devant ton Église pour conduire, Seigneur, tes enfants dans tes voies. Seigneur, je te prie de faire de moi un proclamateur régulier de l'Évangile. Quelqu'un, Seigneur, qui sans aucun doute, sans aucune crainte, ouvre la bouche pour l'annoncer à tous les hommes, partout, en tout lieu, en tout temps. Et te laisser, toi, être le maître de mission sans me décourager des moments où je ne vois pas de fruits, Seigneur. Et viens le faire pour cette assemblée, ô Dieu. Parce que nous désirons, Seigneur, que des milliers de chrétiens, des milliers de Québécois, Seigneur, deviennent chrétiens et soient avec nous dans l'éternité pour fêter beaucoup plus que le Saint-Jean. Et pour fêter le Saint-Agneau de Dieu qui s'est offert pour nous. C'est en son précieux nom que nous prions. Amen.